Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui autour du sujet de la donnée ESG. Donc, j'imagine que vous êtes nombreux à être venus parce que vous faites du reporting ou de l'analyse ESG et que ce sujet vous parle et que vous avez le sentiment que derrière cet effort autour de la donnée, il y a de la valeur financière. Donc, bienvenue avec nous. Je suis Pauline Rouleau, je suis la fondatrice avec Elsa Boniface qui est ici de l'agence Ici et Demain. Ici et Demain, c'est une agence de conseil en RSE qu'on a fondée avec 15 et plus de 20 ans d'expérience pour Elsa dans le domaine de l'ESG autour de trois offres. Une offre d'accompagnement à la stratégie, une offre d'accompagnement réglementaire qui est vraiment notre très fort prisme accompagnement à la DPEF et à la CSRD et un troisième domaine d'expertise qui est la communication ESG. Aujourd'hui, ce qui nous mobilise beaucoup, vous vous en doutez, c'est le reporting et la CSRD. Si le reporting est aujourd'hui sur toutes les lèvres, on entend finalement assez peu parler de la donnée, même si c'est bien la donnée qui est au cœur des évolutions réglementaires. Si on regarde toutes ces réglementations au nom barbare, la SFDR, la taxonomie, la CSRD, ce qui est en jeu, c'est la production de la donnée, sa fiabilisation et son harmonisation. Donc avant de poursuivre, peut-être on va faire une petite précision sémantique, même si nos intervenants nous donneront leur approche de la donnée. Quand on parle de données, on parle bien évidemment de données quantitatives, c'est-à-dire d'indicateurs et d'objectifs, mais on parle surtout, et ça représente trois quarts de la donnée en ESG, de données qualitatives. Ces données qualitatives, ce sont des politiques, comme par exemple votre politique d'engagement des collaborateurs, ça peut être vos plans de transition climat, des plans d'action et une interprétation de votre performance. Vous le savez, cette donnée extra-financière, elle est fortement bouleversée aujourd'hui. Outre-Manche, on a les IFRS, en Europe, on a la CSRD. La CSRD, c'est la directive de reporting européenne qui va s'adresser à 50 000 entreprises. Et donc, on va avoir sur le marché, on a fait un petit calcul, plus de 25 millions de points de données ESG dès 2026. On a ce foisonnement de la donnée ESG et on a une donnée qui est plus abondante, plus harmonisée dans ses méthodes, mais aussi plus facilement identifiable parce que cette donnée, elle va être taguée. Ce qui est en jeu, vous le savez, c'est de flécher les investissements vers les activités de transition et vers les activités durables. Donc finalement, c'est ça le thème de notre atelier aujourd'hui. C'est de se dire qu'avec la donnée, on est dans un cercle vertueux. De la donnée de durabilité aux investissements durables, ce qui est en jeu, finalement, c'est reporter la durabilité pour mieux la financer. Ça, c'est l'équation au niveau réglementaire, on pourrait même dire au niveau politique, avec ce qui se joue entre les normes IFRS au niveau global et l'Europe. De l'autre côté, au niveau technique, on a l'émergence de nouveaux outils, de robots de lecture et de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça contribue à cette révolution de la donnée. On a la grande chance aujourd'hui d'être entouré de des représentants de tous les acteurs de la chaîne de la valeur de la donnée. Donc nous avons avec nous Céline Soubran-Weber, donc directrice RSE de Lagardère, Emmanuel Delaville, qui est fondateur de l'agence de notation pionnière en la matière Ethifinance, et Anne-Claire Impérial, donc responsable ESG du fonds de gestion, de la société de gestion bien connue, Sycomore. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît ? Merci. Alors, je vous propose de commencer par un petit tour de table. Si vous voulez bien nous raconter rapidement vos parcours, parce que vos parcours sont riches, et donc ça nous permettra de mieux connaître vos différentes casquettes.
Bonjour à tous, merci beaucoup Pauline, merci Ici et Demain pour cette invitation. Donc Anne-Claire Impérial, je suis responsable ESG chez Sycomore. Sycomore, c'est une société de gestion de fonds d'investissement spécialisée sur l'investissement responsable. pour me présenter donc en termes de parcours, j'ai rejoint Sycomore en 2017 et auparavant j'ai travaillé 8 ans en conseil en développement durable, 4 ans chez EY comme Pauline et Elsa et 4 ans ensuite chez Deloitte et chez Sycomore aujourd'hui, donc en charge de l'ESG à la fois au service des décisions d'investissement mais aussi pour tous nos métiers, comment transformer nos métiers face à ces nouvelles réglementations autour de l'investissement responsable notamment.
Bon, bonjour, Céline Soubranne. Moi, ça fait maintenant 13 ans que je travaille dans le domaine de la RSE, du développement durable et de l'ESG. J'ai fait une grande partie de mon parcours dans la finance. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu à la fois le point de vue émetteur du groupe AXA, dont j'ai été directrice de développement durable, et le point de vue investisseur, puisque une de mes dernières fonctions chez AXA, c'était d'être directrice ESG chez l'asset manager. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je suis directrice RSE de Lagardère, donc toujours point de vue émetteur, mais en plus avec la richesse de 4 activités très différentes, puisqu'on a un pôle news, un pôle spectacle, une branche retail et une branche publishing avec le Hachette. Voilà, donc effectivement, différents points de vue sur la donnée ESG que j'ai essayé de partager avec vous aujourd'hui.
Merci, bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis Emmanuel de la Ville. Je suis un ancien financier. J'ai commencé, ce qui trahit mon âge, j'ai moins bossé 15 ans sur les marchés financiers et plutôt au Royaume-Uni, avant de faire une énorme crise du sens du capitalisme quand j'avais 35 ans et j'étais patron de pays chez Kering au Royaume-Uni. Voilà, là, crise de sens, crise de cette matérialité uniquement tournée vers l'actionnaire pour décider de rentrer en France et de créer une agence de notation sur ce qui, à l'époque, ne se disait pas du tout, l'extra-financier n'était pas compréhensible. On parlait d'éthique, on parlait de responsabilité sociétale. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'Ethi Finance existe, une agence qui marche sur deux jambes. On fait de la notation financière, ça c'est moins connu. C'est lié à un rapprochement qu'on a fait en 2017. On est à 170 personnes, la moitié qui travaille sur du financier et l'autre moitié sur la notation extra-financière de toute entreprise cotée en Europe. À partir du moment où vous faites moins de 10 milliards d'euros de capitalisation boursière. Voilà. Et très heureux d'être là pour ce débat.
Merci Emmanuel. Donc vous voyez qu'on a ici toute la chaîne de valeur de la donnée. Donc on va pouvoir poser toutes les questions pour comprendre en fait d'où vient cette valeur de la donnée et comment est-ce qu'on peut la créer et l'optimiser. Donc avant tout, je voudrais qu'on revienne sur la donnée ESG. Peut-être on va commencer par Emmanuel et Anne-Claire. Cette donnée ESG, vous utilisez du quantitatif, vous utilisez du qualitatif, c'est ma première question. Et ma deuxième question aussi, c'est quelles sources est-ce que vous utilisez ? En tant qu'émetteur, voilà, on se préoccupe de savoir qu'est-ce que vous regardez comme information.
Oui, alors effectivement, on parle d'informations parce qu'on va regarder bien entendu les informations qualitatives et quantitatives pour mener à bien nos analyses. Donc notre métier, c'est d'analyser les entreprises dans lesquelles nous investissons sur les enjeux ESG. On va évaluer à la fois la stratégie, les objectifs, les moyens mis en œuvre et in fine les résultats pour vérifier l'efficacité de l'ensemble de ces processus qui peuvent être déployés et décrits par l'entreprise. Mais si on n'a pas toute cette information qualitative qui nous démontre, je dirais, le niveau de maturité du sujet au sein de l'entreprise grâce à toute cette chaîne de la stratégie jusqu'aux résultats, on va bien sûr manquer une grande partie du spectre. Donc le qualitatif est très important dans notre métier et le quantitatif l'est aussi, encore une fois, pour vérifier finalement l'efficacité de tout ce que peut déployer l'entreprise. Ensuite, je pense que le qualitatif, il est important parce que tout n'est pas quantifiable et on doit laisser aussi de la place à l'innovation. Donc, tout n'est pas quantifiable. Je pense, par exemple, au sujet des droits humains. On peut quantifier les moyens qu'on a mis en œuvre sur des sujets d'audit, sur un peu de données de résultats. Mais finalement, la manière d'approcher vraiment les enjeux de droits humains sur toute une chaîne de valeur, c'est avec de l'information qualitative qu'on va pouvoir comprendre si l'analyse de risque a bien été menée, quels sont ces risques saillants, comment l'entreprise se les approprie et les gère. sur le thème de la biodiversité aussi, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. On a encore besoin aussi d'élever en maturité sur comment quantifier, comment donner en fait des indicateurs pertinents face aux différents enjeux qui sont très multiples sur la biodiversité. Donc encore une fois, un éclairage plutôt qualitatif de l'entreprise sur ses métiers et comment elle s'approprie les enjeux de la biodiversité, ça passera que par de l'information qualitative. Et je pense que les risques physiques aussi se traitent très qualitativement encore aujourd'hui. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question sur les sources. Alors évidemment, notre première source de données, c'est ce que communiquent les entreprises. Les entreprises qui ont un devoir d'information juste, non trompeuse, pour leurs investisseurs. Donc c'est bien sûr cette première source. Et je dirais, dans cette source, évidemment, l'entreprise publie énormément de choses, des politiques, des rapports. C'est vrai qu'on aime bien regarder les différents documents. On en parlait en préparant cette table ronde, y compris les rapports intégrés. Pourquoi ? Parce que dans ces rapports intégrés, on a souvent plus de perception du niveau de maturité, de comment c'est intégré au modèle économique et de quelle manière vraiment l'entreprise imagine son modèle économique au regard des enjeux ESG. Et enfin, on va utiliser bien sûr des données externes, notre propre veille médiatique, des veilles aussi qui peuvent être faites par des agences sur les controverses par exemple, et puis des experts aussi. Donc c'est vrai qu'on a une approche multipartie prenante. Donc on va beaucoup s'attacher aussi à trouver peut-être d'anciens collaborateurs sur les enjeux de ressources humaines par exemple. Donc ça aussi, c'est un élément important, et quand on le peut, des visites de sites.
Merci Anne-Claire. Et donc Anne-Claire, vous, je sais comment vous faites ça pour votre propre ligne d'investissement, mais vous, Emmanuel, vous le faites pour vos clients. Alors comment est-ce que vous le faites différemment ?
Alors nos clients sont pour la plupart des financiers, donc des sycomores, donc des sociétés de gestion, des investisseurs, donc qui ont besoin d'une information. On se dit, de l'extérieur, vous dites, nous sommes une agence de notation extra-financière. Si je m'adressais ce matin avec vérité, je dirais que nous sommes plus une agence d'évaluation quantitative. Ce qu'a décrit Anne-Claire là, il y a une notion de qualitatif. Je pense que le métier de notateur demain en tant qu'agence, ce n'est pas de regarder les informations, le comportement, les pratiques d'une entreprise au 31-12-22, parce que c'était hier, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui chez IT Finance et tous mes confrères. On regarde s'il existe des politiques, certaines pratiques, si les indicateurs montent ou descendent, mais c'est toujours backward. Et le métier de demain sera celui de faire ce que fait Anne-Claire, c'est plus de qualitatif. On ira vers ce que l'on fait en matière financière, c'est-à-dire d'émettre une opinion. Une opinion sur la validité du business model et sa soutenabilité financière à 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que fait une agence de notation. On collecte de la donnée. On va ensuite, alors première source, donc, les informations de Lagardère. On va les prendre telles quelles. Deuxième source d'information, ce sont des métriques aujourd'hui, donc des données estimées. On va avoir des modèles pour dire, Lagardère nous dit qu'ils émettent tant d'émissions de CO2, nous on a développé des modèles et on va corroborer ça avec des modèles estimatifs. Deuxième source. La troisième, ça a été évoqué, les controverses, c'est on ne peut pas aller consulter toutes les parties prenantes. Une agence, elle émet un score et elle a un temps très limité pour faire une évaluation d'une entreprise. Donc ce que l'on va faire, et on y reviendra je crois tout à l'heure, on va chercher s'il y a à l'extérieur de l'entreprise, donc sur le net, est-ce que je peux relever des informations qui viendraient infirmer ce que diffère l'entreprise. Donc on appelle ça, dans notre jargon, des controverses, donc des informations. Voilà. Et on va, c'est le rôle des analystes chez IT Finance, de dire cette controverse est grave ou c'est du bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Si je veux collecter de l'information sur une entreprise cotée, je vais, et c'est un peigne fin sur une plage, vous ramenez beaucoup de détritus. Et là-dessus, il faut savoir trier et, voilà, et relever l'information pertinente. Voilà les sources.
Merci, Emmanuel. Donc, Céline, vous êtes face à des approches de notation différentes, donc des approches très qualitatives, des approches plus quantitatives. Vous êtes face à des analystes qui regardent autant vos documentations publiques que les controverses. Comment est-ce que vous gérez, vous, cette nécessité de publier et de maîtriser l'information ?
Effectivement, il y a deux choses. On parlait de données brutes, hein, donc les indicateurs chiffrés, et puis on parlait aussi du qualitatif. Alors, les indicateurs bruts, c'est essentiel. De toute façon, c'est ce que nous demandent les agences de notation. C'est ce qu'on publie déjà dans notre NFRD, qu'on publiera encore mieux et davantage dans la CSRD. Après, le qualitatif est essentiel parce que c'est ce qui donne la perspective. Sans même parler de RSE ou de développement durable ou de ESG, quand on est investisseur, et je fais aussi référence à mon ancienne vie, quand on est investisseur, on fait aussi un pari sur l'avenir, sur la profitabilité d'une entreprise. Et en ESG, c'est pareil. Quand on regardait les données ESG d'une boîte et qu'on avait des doutes, justement, sur des controverses ou même sur son parcours de décarbonation, on regarde ses chiffres bruts, où elle en est aujourd'hui, et on regarde les perspectives qu'elle nous donne par ses engagements, par la mise en place de ses politiques pour demain. Et c'est là qu'on peut être amené à désinvestir, au contraire à investir davantage, parce que ces perspectives, comme sur le plan purement financier, sur le plan extra-financier, sont aussi une garantie pour l'avenir. Si j'étais un peu provocatrice ce matin, si on avait tous fait notre décarbonation, ça serait. Hein. Donc voilà, donc si on regarde les chiffres aujourd'hui, globalement, ils ne sont pas très rassurants, ou ils sont encore un peu préliminaires. Voilà, ce qui compte, c'est les engagements qu'ont pris les entreprises à 2030, à 2050, on espère, et c'est la trajectoire de décarbonation qui compte. Voilà, donc ces perspectives, elles sont clés. Les controverses, puisqu'on évoquait ça aussi, il faut les prévenir. C'est pour ça que le dialogue avec les ONG est tellement important. Voilà. Et puis, dernière chose, peut-être que je dirais aussi par rapport à mon expérience plus récente chez Lagardère, c'est que le qualitatif est d'autant plus important, par exemple, avant, je travaillais dans un groupe très homogène sur ces activités, ils faisaient de l'assurance, de l'asset management, de la finance. Là, chez Lagardère, on a quatre branches d'activités différentes. On a un pôle média, on a des spectacles, on a un pôle spectacle, on a un pôle livre, voilà, on est le troisième éditeur de livres au monde avec notre filiale Hachette, et puis on a 5000 points de vente, je vois mes collègues là-bas qui les gèrent, on a 5000 points de vente en travel retail, dans 300 aéroports, dans 700 gares. Il faut que je remette tout ça en perspective qualitativement pour ceux qui regardent nos résultats, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux d'émissions de CO2 chez Europe 1 que dans mes aéroports ou dans les ouvrages publiés par Fayard, Grasset ou Pika Édition. Donc voilà, donc ça c'est aussi, ou aux Folies Bergères, puisque c'est pour parler de nos salles de spectacle. Donc voilà, donc ça c'est aussi là que le qualitatif entre en jeu pour remettre en perspective. Et attention aussi aux dernières choses au travers de regarder. Alors le CO2 c'est capital, hein, voilà, crise climatique, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, il y a des choses à croiser, par exemple, sur tout ce qui est restauration. Nous, on a des chaînes de restauration dans notre activité Travel Retail. Si vous regardez que le CO2, vous omettez des enjeux de biodiversité ou de santé. Si aujourd'hui, vous regardez que le CO2, vous poussez en rayon plutôt des produits assez processés, assez industriels. Donc attention, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas décarboner, hein, ce n'est pas mon propos, mais attention aussi à croiser avec d'autres enjeux, notamment de santé et de biodiversité.
Merci Céline pour ces éclairages sur la gestion de la donnée, donc le qualitatif pour remettre en perspective. Et sur le sujet des controverses, donc c'est vrai que les controverses, c'est ce qui détruit la crédibilité de votre entreprise, mais c'est aussi ce qui détruit la crédibilité des agences de notation. Et donc ça va être le passage un peu poil à gratter. Donc Emmanuel, c'est pour vous cette question-là. À la sortie du livre Les Fossoyeurs, vous savez que Orpea a été classé 5e sur 137 par Sustainalytics. Donc les agences de notation sont souvent incomprises, on va dire, voire même pour Elon Musk, c'est le diable, hein, quand Elon Musk a découvert que Tesla était moins bien noté que Philip Morris. Donc Emmanuel, expliquez-nous en fait cette incompréhension, d'où elle vient? Elle vient de vos grilles, elle vient d'une incompréhension des méthodes. Merci.
Heureusement qu'on l'avait répété, hein. Alors, on va démystifier certaines choses. Donc, je suis heureux de pouvoir j'ai dû répondre maintes fois sur Orpea, sur BP, enfin sur Volkswagen. Donc, première chose, et la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir que toutes les agences en Europe fassent lumière sur leur méthodologie d'évaluation. C'est un mauvais procès que... Je vais arriver à Orpea. Hein. Donnez-moi un petit peu de... Je prends un peu de recul. Déjà, critique sur les notations. On a dit qu'une note extra-financière varie énormément d'une agence à une autre. CF, donc, ce qu'a dit M. Musk. Donc, ce procès-là, il n'est pas bon, puisque ça dépend, lorsque vous évaluez un objet, une organisation, ça dépend de votre méthode, c'est-à-dire de l'angle par lequel vous allez évaluer l'entreprise. Une agence qui a un biais avec une méthodologie fortement imprégnée sur l'environnement ne va pas avoir la même note qu'une entreprise qui va regarder l'ESG de manière globale. Donc, évidemment, on va aboutir à des notes très différentes d'une agence à une autre. Chez IT Finance, on va évaluer selon une méthodologie. Est-ce que la politique RSE est là ? Une autre agence va avoir une approche plus tournée vers le risque. Donc, ce que je veux dire, cette hétérogénéité, elle est saine, elle est normale. Ce qui n'est pas bon, c'est les black box, c'est les boîtes noires où on ne comprend pas comment l'agence évalue. Voilà. Donc ça, de toute façon, ça va changer puisque vous savez que notre métier va être réglementé. C'est la news du 13 juin 2023. On sait que désormais, les agences vont être réglementées par les autorités européennes, l'ESMA. Donc, transparence des méthodologies. Alors, ensuite, j'arrive au sujet des controverses, des Orpea. Pour être sincère, des Orpea et des loupés par des agences, il y en a plein à venir. Il y en a plein devant nous. Et j'en veux pour preuve. Donc, je ne vais pas citer Orpea. J'ai moi-même fait des analyses dans les années passées, où, avec visite terrain. Si j'ai un DRH, une directrice de la RSE, qui me garantit que telle et telle chose sont mises en place, rien n'empêchera qu'il y ait un faux pas, qu'il y ait un écart entre la réalité qui m'est décrite et celle qui est réelle. Donc, ce que je veux dire, je pense, là aussi, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a aucune responsabilité. Hein, j'arrive aussi à prendre ma part de responsabilité. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui doit donner un signal dans un temps très limité, parce que vous savez combien de temps on passe en moyenne, une agence va passer pour évaluer une entreprise. On va passer, ça dépend des agences, entre 2 et 3 jours, max. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle économique des agences. Qui nous rémunère ? Ce sont les financiers. Les financiers veulent, et je ne suis pas en train de faire leur procès, mais ils veulent une couverture, c'est-à-dire qu'on évalue des centaines, des milliers d'entreprises, voilà, pour un montant qui a plutôt tendance à baisser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est aussi lié au temps que l'agence peut attribuer donc dans la revue des controverses. Sur Orpea, je ne vais pas parler d'IT Finance parce que nous, on a vécu l'inverse. J'étais hier avec la gérante, la gestionnaire financière, qui nous a demandé d'évaluer avant la publication du bouquin, d'évaluer le niveau de controverse sur Orpea. Parce qu'il y avait une information, je ne vais pas rentrer dans le dossier, il y avait une fuite d'informations négatives, qu'il y avait des pots de vin versés au Luxembourg. Voilà. Donc, ce gérant mandate IT Finance, faites-moi une revue des controverses poussées, et on a mis une alerte en disant il y a trop d'incidents, trop de... Et ce gérant s'est désinvesti suite... Mais ça, c'est l'histoire d'IT Finance qui faisait une évaluation sur mesure de controverses. Et donc, je pense que demain... je pense qu'il y aura d'autres cas où l'agence ne pourra pas dans le temps, sur des enjeux aussi hétérogènes, larges, profonds que la RSE, que l'environnement social. Et voilà, ce n'est nous ne sommes pas une agence, nous ne sommes pas un cabinet d'audit, nous ne certifions rien. Nous donnons, et c'est ce que je vous disais il y a 5 minutes, une évaluation quantitative avec une revue des controverses. On essaye de capter des signaux. Peut-être qu'on reparlera sur la méthode et sur le rôle de l'intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais dire sur Orpea. Donc oui, il faut que les agences fassent leur mea culpa, elles peuvent faire mieux. Voilà, il faut qu'elles arrivent à faire appel aussi à des technologies parce que, vous l'avez compris, leur modèle économique fait qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas consacrer le temps qu'il faudrait ou qu'un journaliste peut passer sur en 18 mois à investiguer ce que nous, on doit faire en 2 jours.
Merci, Emmanuel. Donc, je pense que tout le monde a bien en tête le fonctionnement de la notation, ses limites aussi, le fait que ce n'est pas un audit. Une notation, ce n'est pas un audit, ce n'est pas une vérification. Donc, contrairement à ce à quoi peut s'attendre le grand public. Et face à cette révolution qui est la CSRD en Europe, les IFRS outre-Manche et à l'international, puisque les IFRS vont servir de base à de nombreuses réglementations mondiales, qu'est-ce que ça change en fait concrètement pour vous, Céline? Comment est-ce que vous vous préparez chez Lagardère à cette nouvelle demande de données?
Intensément. on s'y prépare, on a beaucoup anticipé, effectivement. Alors, on ne part pas de rien, moi, c'est ce que j'aime bien aussi rappeler. Enfin, il faut jamais oublier qu'avec la NFRD, qui était déjà une réglementation européenne, si en plus on était en Italie, en Espagne ou en France, où il y avait déjà un audit des données, c'était quand même pas déjà rien. Donc ça, j'aime bien quand même le rappeler. Parce que des fois, on a l'impression que c'est la révolution, qu'on part de rien. Voilà. Donc, et après, bien sûr, on est tous en train de faire quand même nos gap analysis entre justement ce qu'on publiait et ce qu'on va devoir publier demain. Clairement, oui, il y a plus de robustesse, de comparabilité. Il y a des indicateurs qui vont être normés. Il y aura une façon de calculer le CO2 et pas une autre, et c'est celle-là qu'on devra tous appliquer. Sur les effectifs aussi, sur le social, on en parle des fois moins, mais pour le coup, je trouve maintenant que j'ai lu les actes délégués définitifs, que sur la partie sociale, finalement, c'est sûrement d'ailleurs une partie la plus aussi robuste, parce que là aussi, les indicateurs, quelque part, c'est des additions. Là où il y a plus, on est plus sur des estimations, hein, faut se dire, sur le scope 3, en CO2, on va encore beaucoup travailler tous sur des estimations. Donc ça c'est important de le dire. On a la double matérialité. Et surtout, moi, je pense qu'aussi la grande révolution, notamment j'étais à une réunion très intéressante hier, organisée par l'ORS avec le H3C, c'est le contrôle. Et c'est là où c'est-à-dire que le contrôle aussi va être normé. C'est-à-dire l'audit va être normé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance limitée qu'on pouvait avoir en Espagne, en Italie ou en France sur notre NFRD, ce n'est pas la même assurance limitée de demain sur la CSRD par les commissaires aux comptes. Et donc ça, par rapport aussi à ce que vous évoquiez, à un moment donné, oui, c'est des données déclaratives et non vérifiées. Ça va quand même, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes, mais ça peut régler une partie des problèmes. Donc ça, c'est aussi une dimension essentielle. Après, ce que ne réglera pas dans un premier temps la CSRD, justement, c'est les différences sectorielles. Parce que ce que vous évoquiez aussi sur les controverses par rapport aux agences de notation, ou ce qu'on se disait, Philippe Maurice se compare à Tesla, il ne faut jamais oublier que c'est compliqué aussi de comparer des secteurs qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais directrice des ventes durables chez AXA avec Total. Enfin, quand on regarde le secteur de l'énergie, oui, on ne compare pas Total avec Lagardère, pour le coup, ou Vivendi, qui font du divertissement. Donc ça, c'est aussi quelque chose un peu clé. Et c'est pour ça que, enfin, voilà, ce qui nous manquera peut-être dans la CRD, ce sera les normes sectorielles qui nous permettront encore d'aller plus loin sur cette normalisation et cette standardisation. Mais ça, je crois qu'elles sont annoncées pour tout de suite. Mais bon, c'est déjà une première étape.
Merci Céline. Donc c'est le paradoxe de la normalisation et de la spécificité, puisque finalement, ce dont on a besoin, c'est d'indicateurs et d'informations normées. Et en même temps, une information sera pertinente si elle est nécessairement spécifique à l'entreprise et à son modèle d'affaires. Et justement, Anne-Claire, qu'est-ce que ça va changer chez vous, la CSRD? Parce que vous avez eu une approche très engagée chez Sycomore. Vous regardez les données, mais vous faites aussi très attention au modèle d'affaires de l'émetteur que vous analysez. Donc est-ce que cette CSRD, ça va changer quelque chose finalement ou pas?
Oui, alors bien sûr, on est ravis effectivement des évolutions réglementaires, puisque la CSRD, comme vient très bien de le décrire Céline, vient apporter finalement plus de transparence et surtout un cadre commun plus défini. Donc oui, on ne partait pas de rien, mais voilà, là, la CSRD va s'adresser aussi à davantage d'entreprises. Et donc par la transparence, on sait aussi qu'on accompagne beaucoup l'évolution des pratiques, puisque quand une entreprise commence à regarder certains indicateurs, à devoir les publier, en général, elle se pose aussi un peu la question sur comment les faire évoluer dans le bon sens. Donc on sait aussi, historiquement, que par la transparence, on accompagne le changement, le progrès. Après, il faut faire attention aux approches tick the box, hein, comme on pouvait avoir avec Grenelle 2. Historiquement, voilà, il ne s'agit pas juste de reporter effectivement ces indicateurs, et c'est là où la NFRD avait d'ailleurs été un grand apport là-dessus, sur la présentation du modèle d'affaires. Et ça, ça va rester toujours très important. Et l'approche en double matérialité, avec la première étape pour CSRD, c'est l'analyse de matérialité. Ça reste un élément évidemment essentiel pour l'appropriation des enjeux par les entreprises et pour nous, en tant qu'analystes, bien sûr, pour évaluer ce niveau d'appropriation. Ensuite, il y a un point effectivement sur les normes sectorielles ou, je dirais aussi plus largement, sur l'innovation. Le cadre, c'est bien, mais il faut pouvoir aller en dehors, puisque vous le savez, on est sur des sujets qui ne cessent d'évoluer. Et si on ne laisse pas place à l'innovation, on risque de se limiter à des indicateurs qui finalement ne sont pas si pertinents que cela, en particulier en fonction des entreprises et des activités. Je peux prendre une minute pour une illustration de comment nous, on a adressé ce sujet de l'innovation sur le thème de la transition écologique. Et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez sur les émissions de CO2 ou sur le fait qu'on ne peut pas comparer Vivendi à Total Energy, juste sur cet indicateur, par exemple. Quand on a voulu construire un fonds d'investissement sur le thème de la transition écologique, on a regardé ce qui se faisait. Et à l'époque, c'était beaucoup de fonds bas carbone. Et un fonds bas carbone, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, principalement scope 1 et 2. Donc à la fin, on avait des magnifiques fonds bas carbone qui investissaient dans la tech, dans les services dont les scopes 1 et 2 sont très faiblement émetteurs, mais pas du tout dans toutes les industries qui construisent les trains de demain ou qui construisent les bâtiments durables dont nous avons besoin. Donc c'est partant de ce constat qu'on a fait en partenariat avec des consultants, avec Aiker et Quantis, la construction de la NEC, donc la Net Environmental Contribution, qui aujourd'hui est développée par une entreprise donc dont nous sommes actionnaires, mais pour laquelle il y a d'autres actionnaires, qui s'appelle la NEC Initiative, avec déjà en premier, notre premier leitmotiv, c'était aussi la transparence. Hein. Donc faire que cet indicateur soit transparent, puisse la méthodologie soit transparente et qu'elle puisse être utilisée par d'autres acteurs que nous pour aiguiller justement les décisions d'investissement, mais aussi les stratégies finalement d'évolution des modèles économiques au service de la transition écologique. Donc la NEC, comment ça fonctionne? Ça marche sur une échelle de moins 100% à plus 100%. Donc ça paraît assez simpliste, on exprime ça par un pourcentage, qu'est-ce que c'est que cette black box? Et derrière ce pourcentage, en fait, on a des analyses de cycle de vie. Donc comment on les utilise? Je vais prendre l'exemple de la mobilité. On va en placer donc le zéro de cette échelle à moins 100 à plus 100 sur l'échelle de la mobilité. Le zéro va représenter les impacts environnementaux du moyen de transport que l'on utilise pour déplacer une personne sur un kilomètre. Donc on utilise une voiture avec certaines caractéristiques, certaines émissions de CO2, certaines émissions en termes de polluants aussi. Donc on regarde les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions de l'air, les enjeux de ressources et de biodiversité et d'eau également dans cet indicateur, grâce aux ACV. Ensuite, tous les moyens pour se déplacer qui vont avoir moins d'impact environnementaux que cette voiture moyenne vont être dans le positif. Et là, on peut faire grossièrement dire que c'est un produit en croix pour savoir où se situe chaque solution de mobilité pour déplacer un passager sur un kilomètre. C'est là aussi, on revient à l'unité physique, au service rendu par l'entreprise. Et de même, dans le négatif, toutes les solutions qui auront davantage d'impact environnementaux. Et ça, on le fait sur différentes chaînes de valeur. On calibre aussi les chaînes de valeur les unes par rapport aux autres pour que les secteurs à fort impact, à fort enjeux environnementaux soient effectivement évalués entre moins 100 et plus 100, et ceux qui ont moins d'impact environnementaux soient évalués sur des échelles plus petites au sein de cette échelle pour que les secteurs puissent être comparables. Et à la fin, ben, on agrège au niveau du chiffre d'affaires d'une entreprise, puis au niveau du portefeuille, et on a vraiment une notion de la contribution de ce portefeuille, de par ses actifs, aux solutions dont on a besoin pour la transition écologique.
Bravo pour la NEC Initiative. Je pense que tout le monde ici voit l'intérêt de cette initiative. C'est pas très rassurant pour les émetteurs, je pense, ce que tu viens de dire, parce qu'on sent que la granularité de l'information continue de s'affiner et qu'on va devoir, en tant qu'entreprise, continuer à publier des informations de plus en plus précises. Emmanuel, chez vous, la CSRD, qu'est-ce que ça va changer ?
Ça va changer notre métier. Je vais refaire le lien avec ce que je disais au départ. Aujourd'hui, on fait d'abord, essentiellement, les agences dans le monde, on cherche de l'information. Pardon. On va collecter de l'information. Et ce travail-là, a priori, d'ici quelques années, on n'aura plus à le faire, puisque toute cette information sera disponible sous un seul endroit, sous un format électronique. Et donc, ça va tout changer. Donc on aura cette information disponible, ce matériau-là, et on va enfin pouvoir émettre des opinions. C'est ça que je vous disais. C'est-à-dire, à partir de ces données-là et se projeter, on pense que l'entreprise, si j'évalue plutôt le côté environnemental, je pourrais dire, je pense qu'a priori, l'entreprise est bien équipée en matière de gouvernance, en matière de capital humain, pour atteindre son objectif de neutralité ou pas. Voilà un exemple. Donc on pourra faire le vrai métier de notateur, qui est celui de l'opinion. Voilà, donc avec un aspect qualitatif. Moi, ce que je voudrais dire, c'est une bonne nouvelle, donc ça, c'est bien, ça va faire évoluer notre métier. Ce que j'aimerais, je pense que Céline va l'aborder, mais ce que l'on craint, moi, je crains deux choses avec CSRD, qui suis plus en contact avec, j'étais avec des CEO d'entreprises avec 5000 salariés, donc des entreprises de taille intermédiaire. Leur crainte, c'est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, 25 millions de points d'entrée alors sur 50 000 entreprises. Mais même sur une entreprise, ça fait 1000 points, plus de 1000 points d'information. Donc il y a une crainte, c'est un énorme truc, c'est assez complexe, ça demande d'engager l'ensemble des parties prenantes. Donc, première crainte, c'est que ce soit une énorme montagne pour les ETI à franchir. Et du coup, comme on a peu de moyens en tant qu'ETI, je vais faire exactement ce que requiert la loi et je vais faire du tick boxing. C'est-à-dire, je vais aller directement sur les indicateurs, essayer d'aller répondre aux indicateurs les plus matériels, il y a le sens de la matérialité, et donc on oublie, c'est ma chute, on oublie que tout ça, c'est pas ça l'intéressant, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de questionner le modèle économique, c'est questionner la strate, et ça, j'ai peur que ça passe à la trappe. Ça rime en plus.
Merci, et c'est pas la robotisation et l'intelligence artificielle qui se rendra compte de l'entourloupe. Et c'est le dernier sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc vous savez que l'information, elle va être taguée de manière à ce qu'elle soit identifiée. Autour de la donnée, il y aura une métadonnée. Et donc tout ça, ça va permettre une lecture par les robots. Et pourquoi pas demain, une analyse par l'intelligence artificielle. Anne-Claire, concrètement, vous allez changer de métier chez Sycomore ?
Maintenant, on est ravis. On va pouvoir faire plus d'analyses et moins de collectes. Donc, ça va valoriser notre métier, au contraire. Non, effectivement, je pense que voilà, tu as commencé à le dire. Il n'y aura pas d'intuition. On aura beau entraîner les robots d'intelligence artificielle, ils ne vont pas produire l'analyse. Ils vont pouvoir produire des résumés, nous aider. Et c'est vrai qu'on a vu, avec le temps, l'information ESG foisonner. Et nous, qui avons un modèle 100% propriétaire, on en voit bien les limites aujourd'hui, en particulier sur les grands groupes qui publient énormément d'informations. On passe beaucoup trop de temps à la collecte par rapport à l'analyse. Donc voilà, c'est en ça que nous, on est ravis de ces évolutions. On va garder du coup notre métier d'analyste, l'importance vraiment d'émettre notre opinion, de pouvoir aussi passer plus de temps dans le dialogue avec l'entreprise. On dialogue beaucoup avec les émetteurs dès qu'on en a l'opportunité, justement pour partager nos analyses, mais aussi les compléter, et bien sûr accompagner le changement à travers le benchmark qu'on peut apporter en tant qu'investisseur aux entreprises. Donc voilà, je ne crois pas du tout effectivement à la fin de notre métier d'analyste.
Ah non, la même manière, ça va nous aider donc à collecter de l'information plus rapidement, donc pour consacrer plus de temps sur le côté qualitatif. Nous, on s'en sert déjà. On a depuis 2 ans, pour justement les controverses, chercher des controverses sur des entreprises de taille intermédiaire à travers le monde sur leur manière d'agir dans leurs usines, à travers le monde, ce n'est pas simple. Et donc, moi, pendant des années, je me suis chiné à trouver le bon partenaire techno pour nous aider à trouver de l'information pertinente négative. Voilà, donc on l'a trouvé. Il s'appelle, c'est heureux, c'est une entreprise française, je suis heureux de nommer. Donc, c'est Sésame, S-E-S-A-M-M, si vous cherchez. Voilà, c'est une belle licorne française. Donc, on s'appuie sur de l'IA de Sésame pour faire la remontée d'informations tous les matins. On a la remontée d'informations, on a à peu près 135 000 informations négatives remontent tous les mois sur l'univers des entreprises que l'on a. Et ensuite, il y a un travail humain, ça c'est très important, c'est l'humain, ce sont les personnes d'IT Finance, il y a une équipe dédiée controverse qui va justement... sur ce qu'a ramené la machine, enfin les robots, en termes de négatifs, c'est les personnes qui vont scorer la gravité de la controverse et dire ça, c'est plutôt très grave, donc niveau 5, chez nous, c'est très grave, et ça, c'est plutôt du bruit, c'est peu important. Voilà, ça va de 1 à 5. Et ça, c'est transmis au marché, enfin à nos clients. Donc voilà, c'est un appui, c'est une aide, collecte d'informations, collecte de controverses, mais ça n'enlève en rien le côté de jugement, le côté qualitatif.
Merci. Donc l'analyse restera côté agence et côté fonds de gestion. Céline, côté entreprise, on n'en est pas encore à l'IA, mais on est aussi dans les problématiques d'outils. Tu nous disais que c'est le grand défi chez Lagardère comme ailleurs.
Oui, ben je pense que, enfin moi je partage tout à fait la vision que donnait Anne-Claire, c'est qu'effectivement, alors même si je suis d'accord qu'en ce moment, à court terme, au quotidien, on a du mal à se projeter dans ce futur proche, mais je pense aussi que l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura tous digéré la CSRD, c'est que la partie production de données, effectivement, elle soit mise dans les outils adéquats, qu'on redistribue aussi les rôles et responsabilités, voilà comment on implique plus nos métiers finance, compta, pour qu'ils produisent cette donnée robuste avec les commissaires aux comptes qui vont contrôler. Et j'ai bon espoir qu'une fois qu'on aura digéré tout ça, effectivement, nous, on puisse, les directions RSE, reconsacrer du temps à l'engagement. Parce que ça, c'est aussi c'est sur quoi vous insistiez, Emmanuel, c'est qu'à un moment donné, je reviens à ce que je disais à tout début, c'est aussi les perspectives qu'on donnera au-delà de la donnée brute sur nos évolutions de business model, nos trajectoires de décarbonation, comment on les met en œuvre, le plan de transition. Même, voilà, hier, je vais refaire référence à cette réunion à laquelle j'étais hier avec la présidente du H3C, qui disait qu'il ne faut pas oublier que la CSRD, c'est aussi un texte qui insiste beaucoup finalement sur la perspective et la trajectoire. Donc effectivement, on va se libérer du temps à terme, tout de suite à court terme, ça ne se voit pas beaucoup, mais pour dans l'automatisation de ces données. Je le redis, dans la redistribution des rôles, c'est peut-être plus à la directrice RSE de avec son équipe de publier toutes les données. Et du coup, que nous, on se reconsacre au dialogue avec les parties prenantes, à la stratégie d'engagement, pour réellement faire advenir cette transition.
Merci Céline, merci Emmanuel, merci Anne-Claire pour tous vos éclairages autour de la donnée. Donc c'est vrai que on parle de la donnée, mais après il y a tout ce qu'il y a derrière l'analyse, la transition, la transition durable de l'entreprise, vos transformations. Et donc chez Ici et Demain, on est convaincu au niveau de la CSRD que la CSRD ne se fera pas sans aligner les hommes et les outils. C'est-à-dire que on parle du déploiement de l'ESG dans les métiers, et donc pour pour pouvoir demain répondre à cette exigence de la donnée, il va falloir mobiliser. Et donc on a développé un outil qui permet de répondre à cette double problématique, mobiliser en interne autour du qualitatif, tout en insufflant en fait l'esprit de la loi de la CSRD, et collecter et qualifier les données. Quelque chose qui me parle beaucoup dans notre échange, c'est aussi le paradoxe du reporting, puisque finalement le reporting, c'est celui qui prend la mesure de la durabilité, mais c'est aussi le reporting qui donne la mesure de la durabilité et qui impulse. Donc Céline, vous dites dans la CSRD il y a beaucoup de trajectoires, et bien demain les entreprises vont travailler sur leur trajectoire et ce sera en partie grâce à la CSRD. Voilà. Et aussi, donc, nous, on a une grande conviction, c'est que la donnée ESG, elle aura la valeur que vous lui portez. Donc, on vous invite à soigner cette donnée ESG. Et longtemps, les entreprises ont eu la frustration de se sentir dépossédées de leurs données. On ne comprend pas les analyses. Là, avec la CSRD, on a l'opportunité de prendre la main sur ces données ESG et finalement d'être acteur de la valeur de sa propre donnée. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura parlé à tous, que vous soyez en situation d'émetteur, d'analyste ou peut-être de découverte de ces sujets. En tout cas, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin. Merci.